C'est quand la dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio? C'est quand Michael Jackson était encore noir? The Cure?
J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu, 102.2.
Bonjour.
Ah, bonsoir.
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 C'est l'heure du Canu Info.
Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi.
Radio Canu.
C'est l'heure du Canu Info.
Ce soir,
on va parler de
Amazon contrainte par la justice
et par Sud
à arrêter de fournir les produits non essentiels.
Tchernobyl qui est en train de cramer.
Des zones de non-traitement supprimées en toute discrétion dans 25 départements.
On aura une chronique de la Toubib
sur Rao qui craint trop.
Un appel de bien comme Pézina.
Ensuite, on aura une interview de Cybelle
sur les 4 ans de la loi anti-prostitution. On a l'honneur,
la joie,
le bonheur,
la fierté
de vous annoncer
une chronique
de Laurent
de la Bouge.
On fera un point sur la situation en Méditerranée avec une interview d'Ariane
mécanicienne de Sea-Watch.
Et pour finir, on ira faire un tour du côté de l'Afrique, où on parlera expulsion en masse d'Éthiopiens depuis l'Arabie Saoudite et les Émirats, répression policière devant les mesures de confinement et suspension de la dette.
Canu Info.
Alors bien sûr, souvent on n'aime pas les juges, mais enfin il faut reconnaître que c'est pas non plus si rare qu'on dise des trucs positifs sur elles et sur eux dans ce Canu Info. Hier en tout cas, le tribunal de Nanterre, suite à une plainte déposée par le syndicat Sud Commerce, a ordonné aux 6 entrepôts d'Amazon France de cesser toute la livraison de produits non essentiels. Ça veut dire que dans les 24 heures qui suivront la notification par l'huissier, Amazon ne pourra plus livrer que des produits d'hygiène, de santé ou de la nourriture, soit environ 10% de son activité. Si Amazon ne respecte pas ces délais, elle sera punie d'une amende de 1 million d'euros par jour de retard. Alors Amazon n'est certainement pas le seul employeur à se foutre de la gueule du monde en termes de protection sanitaire de ses employés, mais enfin, à tout seigneur, tout honneur, il faut bien lui reconnaître une certaine supériorité dans le cynisme. Merci le tribunal de Nanterre, donc.
Canu Info. Du mercredi.
Et puis figurez-vous que pendant que tout le monde s'occupe de ce virus, eh ben ça crame à Tchernobyl. De gigantesques incendies de forêt font rage autour de l'ancienne centrale nucléaire. Alors depuis qu'il avait pété en 1986, le réacteur a été recouvert par ce qu'on appelle un sarcophage de béton dont personne ne connaît très exactement la résistance à la chaleur. C'est aussi un endroit où sont stockés des déchets radioactifs. Le plus grand incendie de la région fait rage sur 34 000 hectares, mais celui qui inquiète le plus finalement ne couvre que 12 000 hectares, sauf qu'il est arrivé à 1 km de la centrale. Un haut responsable des services d'urgence a déclaré qu'il n'y avait aucune menace pour la centrale ou ses installations de stockage, tandis que le vice-ministre de l'Intérieur, Anton Gerashenko, a insisté « Tout ira bien !» Le problème, bien sûr, c'est qu'on a parfois du mal à faire confiance aux autorités russes. Mais pas de souci, vous en faites pas, on sera informé bien sûr honnêtement par les autorités françaises. Vous savez, celle qui, en 86, nous avait dit à propos de l'accident à Tchernobyl que le nuage radioactif avait contourné la frontière. Ou alors les autorités françaises, celles qui nous assuraient il y a un mois que porter des masques pour lutter contre l'épidémie était certainement contre-productif à l'époque où elles n'étaient pas en mesure de nous fournir des masques. Alors, cette info date déjà de la semaine dernière, je l'ai découverte bêtement juste après la fin du Canu Info de mercredi dernier, mais écoutez, j'y reviens quand même parce qu'elle est passée complètement inaperçue et c'est bien ça qui lui donne tout son sens. Quelques jours donc avant ce discours de lundi de Macron, où il nous a entre autres promis une sobriété carbone pour le monde d'après, sobriété carbone toujours sans engagement chiffré bien sûr, quelques jours avant ça, les préfets de 25 départements ont supprimé, à la demande de la FNSEA, les fameuses zones de non-traitement. Vous savez, les zones de non-traitement, c'est ces 10 mètres autour des maisons où les agriculteurs, et là je parle bien des pires glyphosateurs de l'agro-business, où ces gens n'ont pas le droit d'épandre des pesticides. Autour des maisons d'habitation, il y avait 10 mètres sur lesquels on n'a pas le droit de mettre du glyphosate ou toutes ces saloperies. Bon, 10 mètres autour des maisons, on l'avait dit à l'époque où il l'avait décidé, c'est quand même vraiment d'un ridicule achevé, c'est quand même vraiment rien d'y mettre. Rien, rien, rien. Mais enfin, il faut quand même pas trop en rire, puisque ces 10 mètres, c'est l'essentiel de ce que Macron avait réussi à faire au niveau écologie. Si on enlève les promesses, hein, je veux dire, ce qu'il a vraiment fait, les lois qu'il a vraiment prises. Alors voilà, dès que tous les médias, tous les journaux, le monde entier a le regard tourné vers une direction unique, dès qu'on est certain qu'aucune info qui n'est pas en lien direct avec le virus n'intéressera qui que ce soit, hop, discretos, les préfets aux ordres directs du gouvernement, hein, les préfets, c'est pas des gens qui prennent des initiatives, c'est pas leur job, les préfets donc de 25 départements suppriment ces zones de non-traitement. Abracadabra, le tour est joué.
Masque.
Virus.
Test.
Contagiosité.
Comorbidité.
Respirateur.
Symptômes. Charge virale. Chloroquine.
C'est quoi l'épidémiologie?
Patient. Patiente. Guérison. Coronavirus.
Chronique de la toubib de Canu.
Et bonjour. Alors, je vais commencer cette chronique avec une triste nouvelle. Et oui, grosse déception dans le monde des espoirs médicamenteux anti-Covid-19. Puisque les essais sur les capacités curatives du sang de ver marin breton, petit animal qui vivait sous l'eau et arrivait à oxygéner de façon un petit peu accélérée l'oxygénation du sang, cette étude donc sur ce petit ver marin vient d'être stoppée. Et oui, on vient de s'apercevoir que dans une précédente étude, lors de l'injection test à des petits cochons, il y a eu 100% de létalité, c'est-à-dire que tous les porcs sont morts après avoir reçu cette injection. Donc bien évidemment, arrêt de cette étude. Donc c'est drôlement dommage, de 1 pour les cochons, bien sûr, mais aussi parce que c'était quand même vachement plus chic que la chloroquine. Et ben justement, ça va être l'occasion de parler un peu de cette fameuse course aux médicaments miracle, de la chloroquine et de Raoul. Donc Raoul, c'est qui ce héros des temps modernes et surtout sur quoi qu'il fait son business? Eh bien de façon très originale et engagée, Raoul a choisi depuis plusieurs années, et cela de façon réfléchie, décidée, hein, pas trop comme ça là, sans trop savoir comment s'y prendre, mais donc il a bien choisi, ce Raoul, de se faire une renommée et accumuler du pouvoir et du fric grâce à l'argent de l'industrie pharmaceutique et de la fraude scientifique. Et c'est effectivement une prouesse, hein, que l'on peut saluer et par son originalité et par son côté profondément anti-système. Car on le sait, l'industrie pharmaceutique n'a qu'une chose en tête, notre bonheur à toutes et tous. Tout comme donc Raoul. Mais lui, c'est même mieux, car en plus de notre bonheur, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il est un héros et qu'il se bat contre les méchants de ce monde. Donc on peut se poser des questions, hein, avec qui il se bat et comment il se bat, c'est qui ses alliés, avec qui il bosse, comment il bosse et qui le soutient politiquement. C'est quand même souvent des questions intéressantes à se poser. Donc Raoul est le patron d'une fondation, l'Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille. Le nom, ça claque, ça fait bien, on entend un peu CHU, on entend hôpital public. Eh bien en fait, pas du tout. Le principe des instituts hospitalo-universitaires, c'est au contraire d'avoir un statut de fondation. Cela leur permet de faire participer au maximum le privé dans leurs administrations. Et à l'Institut universitaire hospitalo de Marseille, ce sont comme entreprise choisie les laboratoires Mérieux et aussi dans le passé Sanofi. Mérieux envoie notamment des centaines de milliers d'euros tous les ans avec une traçabilité et bien malheureusement difficile de savoir où est injecté exactement cet argent. Donc quand Raoul se proclame indépendant, c'est carrément un gros mytho. Et oui, il a choisi le statut de fondation dans ce but de bénéficier d'investissements privés venant de très grandes firmes capitalistes et ça lui assure aussi une opacité sur ses propres conflits d'intérêts. Puisqu'en gros, les sous vont à la fondation, mais non directement dans sa poche de façon visible. Donc grâce à Raoul, on a déjà plus 20 000 pour le système de merde. Aussi, qu'est-ce qu'il critique, hein ? Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il veut critiquer la lourdeur des protocoles scientifiques et surtout valoriser l'action, le bon sens pragmatique bien de chez nous. C'est-à-dire, il va y aller seul contre tous. Et du coup, niveau mise en scène, là, il y va, il y va. Mais donc, quand il dit « nique le système », ça serait sympa de sa part quand même qu'il précise que le système qu'il veut niquer, c'est le système qui cherche à garantir de la validité scientifique et protéger un peu l'analyse des données de conflits d'intérêts. Conflits d'intérêts, qu'ils soient intérêts financiers, Raoul en a, du coup il veut niquer le système qui limiterait ses propres intérêts financiers dans l'analyse des données, ou aussi tout simplement l'intérêt ego trip sauveur du monde des chercheurs, et on voit bien que Raoul en a un petit brin aussi. Donc Raoul, ce qu'il fait finalement, c'est qu'il falsifie et il manipule clairement les données dans son intérêt propre. Par exemple, il a déjà été condamné pour fraude et interdit de publication, c'est quand même pas rien. Par exemple, il y a des procès dans sa fondation pour harcèlement sur des chercheurs pour que les résultats collent coûte que coûte avec ce que Raoul veut montrer à tout prix. Par exemple, dans ses résultats sur la chloroquine, il a tout bonnement supprimé sans explication les données qui n'allaient pas dans son sens. Par exemple aussi, il n'a jamais mentionné le fait qu'il avait connaissance d'un article publié au mois de mars dernier qui disait que la chloroquine n'avait pas d'efficacité sur le vivant dans une étude portant sur un autre type de virus. Bref, il n'y a pas de seul contre tous dans ce qu'il fabrique, bien au contraire, il y a s'adapter parfaitement aux règles du profit et de la renommée avant tout, et en n'en ayant rien à foutre des conséquences en termes de soins et de coûts sur la santé. Parce que l'effet boom que ça provoque la chloroquine, ça fabrique quand même de la grosse merde. Du coup, parce qu'avec la surutilisation en ce moment, et non justifiée donc, puisque les études montrent pas qu'il y a un intérêt à la chloroquine, il y a des gens notamment qui meurent par arrêt cardiaque, si on doit citer le plus grave. Ce que ça fabrique aussi, c'est que l'État de New York se blinde de stock en ce moment de chloroquine, et donc potentiellement, ça appauvrit la possible distribution de ce médicament dans des pays où c'est utilisé à raison, c'est-à-dire pour lutter contre les crises de paludisme. C'est quand même con. Et enfin, Raoult, ce héros anti-système, rappelons-le, a aussi les amis qu'il faut. Dans son grand combat contre les méchants, donc, ses alliés politiques, ce sont Estrosi, Renaud Muselier, président Les Républicains de la région PACA, ou Gilbert Collard, eurodéputé apparenté Rassemblement National. Ça laisse un poil inquiet quand même. Bref, Raoul, c'est un gros porc, absolument sans aucune originalité ni subversion dans ses actes et son discours, bien au contraire. Et c'est bien dommage qu'il ait pas été parmi les fameux porcs qui ont reçu l'injection de petits vers marins tueurs dans l'étude précédemment citée.
17 avril, journée internationale des luttes paysannes. Restez plutôt chez vous, mais pas en silence. Depuis l'assassinat en 1996 de 19 paysans et paysannes sans terre au Brésil, sur ordre de propriétaires, le 17 avril est la journée internationale des luttes paysannes, à l'appel de la Via Campesina.
Avec plus de 200 millions de membres, la Via Campesina est certainement la plus importante internationale de travailleurs et travailleuses actives dans le monde aujourd'hui. Elle porte comme base fondamentale la lutte contre le capitalisme, l'agro-business et le patriarcat, et défend l'agroécologie, l'accès à la terre, à l'eau, aux semences, les droits des paysans et paysannes, la justice climatique et environnementale, et la solidarité avec les migrants, migrantes et saisonniers et saisonnières. Elle rassemble des organisations paysannes, mais aussi de salariés agricoles, de pêcheurs, d'indigènes.
D'habitude, le 17 avril est l'occasion de rappeler l'importance de ces luttes pour l'ensemble des populations par des actions d'occupation, des rassemblements. Cette année, la moitié du monde est plus ou moins confinée. Il n'y aura donc pas d'action de ce type, mais il y a quand même un appel à mobilisation pour rappeler cette année plus que jamais l'importance des luttes paysannes et de la souveraineté alimentaire.
La situation des classes ouvrières urbaines et rurales appauvries est devenue plus précaire avec la propagation du Covid-19 et les retombées économiques qui en découlent. Par conséquent, les peuples du monde doivent saisir ce moment et se battre pour construire une solidarité et des alliances de classe entre les zones rurales et urbaines.
Comme nous l'avons fait il y a 24 ans dans l'Eldorado dos Carajas, d'une seule voix de résistance et en maintenant vivante notre longue histoire de lutte, nous, les paysans et paysannes, les indigènes, les pasteurs, les pêcheurs, les travailleurs et travailleuses agricoles, les migrants, migrantes, les personnes racialement opprimées et la classe ouvrière organisée, dénonçons l'érosion de nos droits en tant que travailleurs et travailleuses, de notre droit à la santé et à l'éducation. Nous nous rassemblons pour condamner la violence, la militarisation et l'oppression systématique dont sont victimes nos peuples et l'érosion constante des principes démocratiques.
Cette pandémie nous rappelle la nécessité de disposer de systèmes de santé publique solides qui ont été systématiquement saccagés au fil des années par certains gouvernements en faveur de la privatisation. Elle a également révélé le vrai visage des profiteurs, les entreprises agroalimentaires, les sociétés pharmaceutiques et autres sociétés transnationales à la recherche d'opportunités commerciales en ces temps difficiles.
Pendant ce temps, des millions d'entre nous, petits producteurs, productrices alimentaires, continuent à produire des aliments et à nourrir la population, garantissant l'approvisionnement alimentaire national et la souveraineté alimentaire. Nous continuons à le faire, même en quarantaine, dans un contexte de frontières fermées, de couvre-feu, en respectant la biodiversité et par une production agroécologique.
Nous ne voulons pas de mesures économiques qui profitent aux élites comme elles l'ont fait dans le passé en renflouant les banques et les entreprises pour sauver l'économie. Nous demandons justice pour la paysannerie et les secteurs opprimés du monde. En ce 17 avril 2020, nous appelons nos membres et alliés à être vigilants et vigilantes contre toutes sortes d'opportunisme dans cette crise globale.
Restez chez vous, mais pas en silence. Depuis vos fermes, vos champs ou vos balcons, faites donc tout ce qui vous semblera nécessaire pour soutenir et visibiliser les luttes paysannes. Vendredi 17 avril et les jours qui précèdent. Vous retrouverez plus d'informations sur le blog des paysans et paysannes dans la lutte des classes, blog.radiocanu.org/lutte-paysanne. Vous pouvez aussi transmettre vos actions à lutte paysanne, tout attaché au pluriel, @riseup.net.
Canu Info. Du mercredi.
La situation Covid-19 et confinement est très difficile, voire intenable pour les travailleurs et travailleuses du sexe. C'est impossible de travailler ou alors en prenant de grands risques, il n'y a évidemment pas d'aide prévue. En parallèle de cette situation, on fêtait lundi les 4 ans de la loi anti-prostitution qui visait à abolir le racolage et à pénaliser le client. Donc au bout de 4 ans, c'est plutôt un constat d'échec. Que nous tire Cybèle L'Espérance, qui est escorte et accompagnante sexuelle, référente Rhône-Alpes du Stras, le syndicat des travailleurs et travailleuses du sexe, qui reviendra sur cette loi et nous fait d'abord un point sur le confinement.
Et nous, au Stras, c'est vrai qu'on a été assez inquiets au départ parce que, effectivement, le télétravail des putes, on va se dire, c'est, le télétravail, ce serait d'être cam-girl, mais en fait, nous, c'est deux métiers et il y a des risques d'exposition, de doxing, de harcèlement en ligne. Alors le doxing, c'est quand on donne des informations privées sur la personne, son nom réel. Il y a des atteintes à la vie privée vraiment très fortes envers les camions, donc il y a plus de mesures de sécurité à mettre en place pour essayer de se protéger. un métier qui a d'autres enjeux. Et donc, on avait un petit peu peur au niveau des travailleuses du sexe en réel, mettrait au virtuel. On a passé ce message de sécurité, de précaution avant tout. Et puis ensuite, on s'est mis vraiment à mettre en place des cagnottes. Et moi, ce que j'ai constaté au niveau des cagnottes, alors, on a fait une campagne pour recruter des dons. Après la première semaine, il y a toute la question de comment on arrive à redonner ces dons. Mais nous, on identifie bien, en fait, quand quelqu'un est réellement travailleur du sexe, quand quelqu'un ne l'est pas. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui considéraient qu'elles n'étaient pas légitimes à demander la cagnotte parce qu'il y avait toujours plus précaire qu'elles. Les collègues qui connaissent ou dont elles connaissent l'existence, hein, ça c'est pas forcément des personnes qu'elles côtoient, mais elles savent qu'il y a des personnes de la rue qui ont de la difficulté même à manger au quotidien. Déjà dans le quotidien sans coronavirus, ça peut être compliqué pour certaines personnes, des femmes trans, des femmes étrangères qui n'ont pas de papier, des femmes qui ont fait un parcours à l'intérieur de la traite et qui peuvent maintenant avoir terminé ou qui consacrent une grande partie de leurs ressources à une dette, qui ont des personnes à charge. Donc, elles pensent à tous ces trucs-là et elles se disent, bon, en fait, moi, j'ai qu'un client à faire et c'est bon pour 2 semaines ou 3 semaines. Et peut-être qu'ils vont privilégier d'aller voir un client en se disant, bah, je vais prendre le risque, j'en prends un pour l'équipe, quoi. Mmh. Manière de penser les choses.
Ouais, alors que c'est quand même un risque, quoi, et qu'elles mettent quand même leur vie en danger pour ça.
Ouais. Après, ça dépend, parce que j'ai cru comprendre que la plupart des filles qui avaient revu, en tout cas dans mon réseau proche, qui avaient revu des clients, c'était des clients qu'elles connaissaient déjà. Donc, elles connaissaient, elles avaient déjà échangé avec ces personnes-là, elles avaient un peu plus confiance en ces personnes-là qu'une personne qui les aurait ciblées en remarquant qu'elles travaillaient et en les voyant comme vulnérables. Mmh. Donc, ces considérations-là de sécurité, les gens en ont beaucoup débattu entre elles.
Comment ça s'organise justement les soutiens ? Enfin, tu parlais des cagnottes. Est-ce que ça a été facile à mettre en place ? Est-ce que c'est relayé ou pas ? Et est-ce que vous arrivez à maintenir le lien avec les travailleurs et travailleuses du sexe les plus isolés ?
Nous, on a commencé à mettre en place une cagnotte Litchi un peu au hasard parce qu'on savait qu'il n'y avait pas beaucoup de ciblage anti-travailleuses du sexe. C'est-à-dire qu'en tant qu'association, on avait l'impression que Litchi ne nous virerait pas. Parce que PayPal, qui était notre interlocuteur de transactions bancaires par Internet principal, nous a complètement bloqué il y a 3 semaines. Toujours est-il que la cagnotte, on a décidé de la démarrer à côté, donc un peu dans l'urgence. Et entre-temps, on a pu mettre en place aussi un LOASO pour notre association, pour le syndicat, pour pouvoir recueillir des adhésions et pour pouvoir recueillir aussi des dons de fonctionnement. Et la cagnotte Litchi est vraiment celle qu'on a partagée pour le Covid. Ça a été... Bah, il faut quand même prouver notre statut, donc ça a mis du temps à se mettre en place aussi pour débloquer les fonds pour pouvoir les récupérer nous-mêmes. Disons qu'on a compté une dizaine de jours entre le moment où on a démarré et le moment où on a pu commencer à distribuer une partie des fonds. Ça fonctionne bien, là. En fait, ce qu'on arrive à donner, nous, c'est de l'aide alimentaire. Donc, en gros, on fait un virement pour les travailleurs du sexe qui nous sollicitent, qui couvre à peu près l'équivalent d'une semaine de course. Donc, on fait une quinzaine à la fois. Elles peuvent renouveler ensuite. C'est ouvert aussi aux travailleurs du sexe gays, aux acteurs, actrices porno, aux camgirls, en fait, aux personnes qui sont... les personnes dont on défend les droits normalement au niveau du STRAS.
Alors l'abandon politique par contre, il a été bien réel avec par exemple Marlène Schiappa qui disait que c'est très compliqué d'aider les travailleurs et travailleuses du sexe. Comment tu vois les choses face à ce mépris total ?
Bah, déjà on ne sait pas si on va pouvoir tenir tout ce temps en fait. On ne sait pas combien de temps va durer le confinement. On sait qu'il y en a déjà qui sont bien en galère et que chaque semaine qui passe, il y en a un plus grand pourcentage de collègues qui vont refaire des clients. Ça, c'est sûr. Donc déjà, moi, je me dis que si c'est même pas une question de santé publique pour le gouvernement, c'est-à-dire, on va encore dire, comme on a fait pour la crise du VIH, que c'est les putes qui contaminent les gens. On le voit quand on regarde un peu dans les médias, il y a quelques cas. Mais je me dis, qui les a contaminés ? C'est les clients qui les ont contaminés. Ces personnes-là ne s'exposent pas de gaieté de cœur. Moi, je trouve ça extrêmement offensant pour ces personnes-là, pour les personnes qui essaient de survivre, dans des situations extrêmement précaires. On ne parle pas de l'escort girl de luxe, ici, on parle de personnes qui vivent en général au jour le jour ou au mois le mois. Donc même parmi nos membres qui sont déclarés, il y en a plein qui n'ont pas droit aux aides. Moi, j'ai pas droit. Je me dis surtout, c'est quand même étrange qu'on nous dise, c'est très compliqué parce que vous êtes des travailleuses qui ne pouvaient pas vous déclarer correctement de vous indemniser. Bah, c'est gentil de dire qu'on est des travailleuses maintenant parce que le secrétariat d'égalité homme-femme, en France, dans une France abolitionniste, nous considère comme des victimes passives. Et là, soudainement, on devient des travailleurs. Je comprends que pour Chiapas, ce soit très compliqué, mais c'est déjà très compliqué d'être travailleuse du sexe, d'être précaire et d'être dans des situations de discrimination constamment pour ce qui est du logement, pour ce qui est de la santé.
C'était aussi lundi 13 avril, l'anniversaire des 4 ans de la loi anti-prostitution. Donc c'était une loi qui remplace le délit de racolage par la pénalisation du client et qui était supposée, tu le disais, accompagner les personnes dans une sortie de la prostitution. Quel bilan, Ostras, vous faites de cette loi ?
Il y a les bilans qu'on fait et les chiffres de nos ennemis politiques qui semblent aller dans le même sens, mais on n'en tire pas les mêmes conclusions. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation de violence, et une augmentation surtout des violences graves, en fait. Il y aura plus de... Par exemple, à Lyon, il y a eu plus de tentatives de meurtre. Il y a eu vraiment une montée dans les 3 dernières années assez claire. Comme les personnes qui se prostituent en extérieur, elles sont repoussées plus loin parce que voilà, il y a eu un changement de paradigme avec la loi. On dit vous n'êtes plus des méchantes en train de racoler, vous êtes des victimes en train d'être exploitées. Donc on va cesser de vous pénaliser, on ne pénalise que le client. Et c'est ce qui est rabâché constamment par les associations qui défendent cette loi. Seulement, il y a 3 moyens encore qui sont utilisés pour pénaliser les personnes qui se prostituent. J'en ai parlé tout à l'heure, la fraude fiscale. Il y a les arrêtés anti-prostitution, donc qui interdisent de pratiquer la prostitution dans certaines rues, dans certains lieux, et les arrêtés anti-stationnement des camionnettes. Et en fait, on se rend compte qu'on est tout autant pénalisés, que tous les groupes de travailleurs du sexe, en tout cas en extérieur, sont autant pénalisés, sinon plus qu'avant, qui reçoivent des amendes, parfois 2 dans la même journée, des contraventions constantes, alors que les clients reçoivent très très peu d'amendes. Je crois qu'il y avait eu des chiffres assez dérisoires. Des milliers d'amendes avaient été données dans les 8 premiers mois de 2019 à Lyon pour l'équivalent d'une trentaine de contraventions clients. Et les contraventions clients, on nous rabâche qu'elles sont des contraventions qui peuvent aller jusqu'à 3 000 €. Par contre, c'est surtout des 300 € qu'on voit quand on fait un peu la veille média, encore une fois, sur ce genre de choses. Mmh. Et après, les filles sont redressées fiscalement. Et si elles ont collaboré entre elles, elles peuvent être accusées de proxénétisme également.
De quel constat les travailleurs et travailleuses du sexe vous ont fait part suite à cette loi de 2016 ?
Bah, moi, déjà, j'ai commencé dans le travail du sexe en France il y a 3 ans. Il y a 2 ans parce que je suis émigrante, hein. je suis canadienne et j'ai pratiqué le travail du sexe pendant 4 ans là-bas et j'ai vu la pénalisation du client arriver avant la France là-bas. Et en fait, ce qu'on entend en France et ce qu'on entend au Canada, c'est un petit peu les mêmes constats, c'est-à-dire que au niveau des clients, il y a beaucoup plus de pertes de temps, de fantasmeurs, de personnes qui sont irrespectueuses. De personnes qui tentent d'escroquer, c'est les choses qu'on voit en fait, que finalement les personnes qui restent, qui s'intéressent encore aux travailleuses du sexe, c'est des personnes qui sont prêtes à braver cette loi, qui n'en ont pas peur. Mm-hmm. Et donc il y a eu ces retours-là. C'est pas tous les clients qui sont comme ça, mais il y a une proportion plus significative autour de ça. Le nombre de personnes qui ont été assassinées dans notre communauté est vraiment très élevé. On a eu une quinzaine, je crois, il y a 11 personnes dans la communauté chinoise en 12 mois. C'est du jamais vu. Parce qu'en plus, il y a le fait qu'on est plus isolé, on est plus dans des lieux reculés. Il y a les clients qui ont changé et il y a les agresseurs qui ciblent. C'est tout. C'est un écosystème entier, en fait. C'est pas le client qui agresse plus ou moins et hop, on doit pénaliser tous les clients. Tous les clients sont pas violents, la violence fait pas partie du métier. Donc quand on se retrouve dans ces contextes-là, et on a vu en fait l'an dernier, on a vu qu'il y avait eu plusieurs escortes assassinées. C'est pas que les personnes de la rue, c'est pas que certaines catégories de travailleuses du sexe, en fait. C'est vraiment toutes celles qui font du réel, qui sont très très
Du coup, pour revenir à ce que vous organisiez pour les 4 ans de cette loi, Ostras et aussi avec d'autres organisations co-signataires, vous avez dénoncé, donc, comme tu viens de le faire, les conséquences désastreuses de cette loi. Faute de manif, vous avez appelé à une mobilisation sur les réseaux sociaux, via des hashtags, via des photos. Qu'est-ce que ça a donné exactement ?
C'est un petit peu dur de faire le bilan, mais je n'ai pas encore fait circuler le formulaire d'évaluation et je vais en faire circuler un parce que je pense que c'est quand même super intéressant. Je pense qu'on a été très surpris par la participation parce que ça s'est organisé quand même très rapidement. Le petit problème qu'on a eu, c'est que l'anniversaire cette année, c'est lundi de Pâques. Et lundi de Pâques, bah, on avait quand même pas mal de compétitions avec Manu aussi sur les réseaux sociaux. Donc en tout, il y a eu très très peu de médiatisation de ce triste anniversaire. On aurait peut-être espéré que plus de gens se rendent compte de la manif et de tout le soutien qui nous était déployé. Hein. Je pense notamment à la campagne de faire des photos en fait « Someone I love is a sex worker » pour montrer qu'on connaît des personnes travailleuses du sexe. Il y en a partout dans notre entourage. Et il y a eu plusieurs centaines de photos qui ont été récoltées par Polyvalence, une association dont on est un peu proche. Donc, si ça avait pu être encore plus visibilisé par les médias traditionnels, je pense que ça aurait été un succès. Voilà, il y a eu aussi un autre élément intéressant dans cette campagne, c'est la sortie du rapport des 20 ans de la Suède, de l'association suédoise Sexforbundet, qui a fait un bilan de ces 20 années du modèle suédois en Suède, qui était quand même assez tragique, et qui, après 20 ans, rejoint énormément les conclusions qui ont été présentées en France après 2 ans.
Alors, je sais que c'est un peu compliqué à anticiper, mais comment vous voyez l'action après le confinement ?
Je sais pas. J'arrive pas à voir pour le moment beaucoup plus loin que chaque semaine de confinement, étant donné qu'on est tellement, nous, sous pression et dans l'urgence. C'est vrai qu'on craint aussi le déconfinement. Il y a certaines communautés, la communauté des Chinoises... À Paris, c'est leur grande crainte parce qu'il y a beaucoup de racisme autour aussi du coronavirus. Il y a le fait qu'on va se retrouver donc avec des loyers, plusieurs loyers qui vont commencer à s'accumuler. Il y en a qui ont réussi à négocier d'avoir des reports, mais là, ça va faire beaucoup en fait. Donc, pour le moment, j'ai un peu de difficulté à envisager la suite. J'espère déjà qu'il y ait une forme de soutien pour la crise. Si déjà on a ça, je pense que c'est. Le rêve, c'est que ce soit abrogé, mais ce sera pas mal.
Attention, vous êtes prêts ?
Et maintenant, en direct et en mégahertz, voici la chronique de Laurent de la Beuse.
Mesdames, messieurs et les autres, bonsoir. Après avoir lu tous les livres qui me restaient sur mon étagère, après avoir effectué le maximum de missions de reconnaissance du trajet lit-canapé et inversement, après avoir regardé toutes les séries qui ont été tournées depuis Dallas, j'avais le choix, lundi soir, entre regarder le mur ou Emmanuel Macron. Un choix difficile. Comme quand je me demandais si je préférerais choper le corona ou avoir une discussion sur la diversité avec Nadine Morano. J'ai finalement choisi de regarder Perspicator, l'homme au pouvoir mais qui pouvait pas, celui qui avait tout prévu. Alors, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il est apparu bronzé comme un maître nageur, la couleur de son visage se situant entre celle de Donald Trump et celle d'une tranche de cheddar fondu. Apparemment, tout le monde n'est pas confiné dans un 15 mètres carrés avec une seule fenêtre côté nord. Enfin bon, son annonce la plus attendue a été formulée ainsi. Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au 11 mai. Déclaration suivie un peu plus tard de celle-ci. Certaines activités sont interdites car incompatibles avec les règles sanitaires. Pour tous les autres secteurs économiques, quand la sécurité des travailleurs et des entrepreneurs est bien garantie, ils doivent pouvoir produire et l'ont largement fait depuis maintenant un mois. Alors je reprends cette dernière déclaration. Quand la sécurité des travailleurs est bien garantie. Mais ça veut dire quoi, bordel ? La sécurité au travail, elle peut être un petit peu garantie, moyennement garantie, bien garantie ou vachement bien garantie ? Là, faut arrêter les conneries. La sécurité, elle est garantie ou pas garantie, c'est tout. Si on peut aller au travail en respectant les distances sociales pendant le trajet, ou si on peut travailler avec des masques et du gel alors que même les soignants n'en ont pas, si les équipements étaient désinfectés entre les changements de personnel, à ce moment-là, la sécurité serait peut-être garantie. Je peux vous dire qu'à mon boulot, c'est pas le cas. Et je ne bosse pas dans un secteur vital, mais ils voudraient que j'aille bosser? Jamais. Je déserte. Effectivement, le président, le chef de la ligue d'assassins à la tête de notre pays, a continué dans son discours avec un vocabulaire ayant attrait à la guerre. Il a parlé de première ligne, deuxième ligne et de troisième ligne. Là où on peut le rejoindre, sur l'analogie avec la guerre, c'est que dans la situation que nous vivons, il y a, comme dans les grandes guerres du XXe siècle, une poignée de riches capitalistes qui envoient les classes défavorisées se faire tuer pour préserver et renforcer leurs intérêts économiques. Mais on est au courant maintenant. Et ça n'a que trop duré. Ça suffit. Retournons les fusils. Voilà sur l'aspect social. Voyons maintenant l'aspect sanitaire. Bien que Macron s'entretienne tous les jours avec le ministre de la Santé, ancien médecin, et le directeur de la générale de la Santé, médecin, et qu'il est grassement payé pour étudier le Covid-19 toute la journée, je vous retransmets mot pour mot sa mesure qui va nous permettre de vaincre l'épidémie, et pas la connerie, si on est foutu. Écoutez ça. Le 11 mai, nous serons en capacité de tester toute personne présentant des symptômes. Nous n'allons pas tester toutes les Françaises et tous les Français, cela n'aurait aucun sens. Mais toute personne ayant un symptôme doit pouvoir être testée. Les personnes ayant le virus pourront ainsi être mises en quarantaine. Après cette affirmation, deux possibilités. Soit il est vraiment con, soit il le fait exprès et la liste des crimes dont il se rend coupable s'allonge. En effet, on sait toutes et tous que la difficulté pour maintenir à distance le virus, c'est qu'il en existe des formes asymptomatiques. Donc, soit on teste tout le monde, soit, puisqu'apparemment il n'y a pas assez de tests, on teste seulement ceux qui n'ont pas de symptômes. Ceux qui en ont, on les met en quarantaine, d'office. La logique démontre donc exactement l'inverse de ce qu'il propose. Tel un capitaine de bateau touché par une voie d'eau qui dirait « Au lieu de décoper comme des cons, on va faire d'autres trous dans la coque. Comme ça, l'eau, elle pourra s'échapper toute seule. » Ce qui m'amène à la dernière phrase que j'ai relevée de son discours. « Nous sommes vulnérables, nous l'avions sans doute oublié. » Bien dit, l'ami. Surtout toi. Parce qu'avec un capitaine comme ça, ça peut vite finir en mutinerie, aboutissant à l'autogestion du navire. Après t'avoir fait passer par la planche, on finira par hisser le drapeau noir. Comme ordure de pouvoir, il n'y a pas que le président qui fait des déclarations sur la manière de surmonter la crise. Il y a en effet, en ce moment, un paquet d'annonces de la part de Monsieur Geoffroy Roux de Bézieux. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas qui c'est et qui auraient tenté de deviner, eh ben non, contrairement aux apparences et avec un nom comme ça, il ne s'agit pas du représentant de la section nettoyage de la CNT Seine-Saint-Denis. Il s'agit en réalité, et vous l'aurez compris, du président du MEDEF. Je ne vais pas détailler ici ses sorties sur le nombre incalculable d'heures qu'il voudrait voir travailler les salariés pour compenser le temps qu'ils ont passé sur le canapé à se renifler les aisselles. Non, je vais vous parler de ses autres sorties, les vraies, les sorties physiques. Il se trouve que, quelques jours après l'application du confinement en France, Geoffroy Roux de Bézieux, le Macron des Macrons, a décidé d'aller se retirer dans son manoir de Bretagne, celui qui a une vue imprenable sur l'océan. Certaines mauvaises langues, ou certains fouilles-merdes, de catégorie de personnes qui ne se différencient que par l'instrument avec lequel il remue, lui ont fait observer que cette attitude ne faisait pas trop respect du confinement. Alors, face à cette polémique naissante, et pour montrer qu'il appliquait strictement les mesures imposées par le gouvernement, il a décidé de décrire son nouveau mode de vie par ces mots. « Je suis partiellement à mon domicile, partiellement en télétravail. » Ouf, on est rassuré. Des fois il sort, mais des fois il reste à la maison. Et on est sûr que la partie de son anatomie qui se cache derrière son regard niais, elle est bien confinée. Enfin, il nous en a dit un peu plus sur le fond de sa pensée. Et là, on remarque que s'il y a quelque temps encore, les dirigeants de son acabit avancées masquées. En période de pénurie, les choses ont quelque peu changé. Voici telle quelle son analyse de crise et de système politique. Deux points ouvrés les guillemets. Face à une pandémie, un système autocratique semble pour le moment mieux armé pour bloquer une pandémie que ne le sont nos démocraties. C'est vrai. En Corée du Nord, par exemple, officiellement, aucun mort du coronavirus. Quant à moi, personnellement, c'est pour éviter que les salauds comme lui fassent leur beurre sur mon dos que je suis actuellement en droit de retrait. Et non, ça n'a rien à voir avec le fait qu'à chaque fois que je croise quelqu'un à moins de 5 mètres, j'étudie pendant 14 jours la meilleure tactique pour taxer un respirateur en position allongée. Ça n'a rien à voir non plus avec le fait qu'à chaque fois que j'éternue, je vois ma vie défiler devant mes yeux. Ah, et pour finir, une dédicace à mon camarade Mich Mich qui m'expliquait que dans sa boîte, les patrons voulaient leur faire reprendre le boulot, mais que les syndicats seraient fermes sur les conditions. Heureusement qu'ils sont là, il me disait. Si les patrons décidaient de nous envoyer à la guillotine, les syndicats seraient là pour imposer que le tapis pour y accéder ne soit pas glissant et que la lame soit bien huilée.
Je m'appelle Ariane, je suis mécanicienne sur les bateaux de, comme profession, comme formation de base, et ça fait un an et demi que je suis mécanicienne sur Sea-Watch. Je fais partie de l'équipe permanente, donc qui est sur le bateau assez souvent.
Est-ce que tu peux nous dire un peu quels navires en ce moment sont présents sur la zone entre vous et les autres ONG ?
Alors ça, c'est assez déprimant. En ce moment, il y a le Alan Kurdi de l'association CI qui est en mer, avec 150 personnes à bord depuis le 6 avril. Et à ma connaissance, ils n'ont toujours pas de solution de débarquement en vue.
Et ils n'ont pas de solution de débarquement parce qu'ils n'ont pas, pas encore regagné un port, ou parce qu'en ce moment, vu la situation, c'est compliqué de trouver un port ?
Du coup, ce qui se passe... En accord avec les lois internationales, après un sauvetage de personnes en mer, hein, quel que soit le sauvetage, on attend des pays aux alentours qui nous assignent un port de sécurité. On va pouvoir débarquer les rescapés, que ça soit un navire de croisière qui coulait, un voilier ou un bateau avec des gens en situation de migration. Ça, c'est la loi. Le Alan Kurdi a secouru deux embarcations et ils ont demandé aux pays les plus proches, c'est-à-dire l'Italie et Malte, qu'on leur donne un port de débarquement. Et pour le moment, ils n'ont eu aucune réponse positive des deux pays. Donc là, en ce moment, ils sont en stand-by en mer avec des gens à bord, des gens en situation médicale pas forcément très stable, dont une femme enceinte.
J'ai vu que Malte, récemment, avait annoncé dans la presse vouloir fermer ses ports pour les missions de sauvetage. Est-ce que toi, t'en as entendu parler ?
Oui, alors Malte et puis aussi l'Italie, dont je te retrouve la date, c'est l'Italie qui a émis un décret le 7 avril et qui a été suivi ensuite par Malte, disant qu'étant donné l'épidémie qu'ils ont à terre, ils se considèrent plus comme port sûr, sauf que ne pas se considérer comme port sûr au point de vue de la réglementation internationale, ça revient à se définir comme étant pays en situation de guerre ou pays où les droits humains les plus basiques ne sont plus respectés. Et là où ce décret est totalement hypocrite, c'est qu'ils disent qu'ils refusent de se considérer comme port sûr pour protéger les personnes qui pourraient venir. Et ça fait un amalgame totalement absurde entre navires de croisière qui, en effet, ne devraient pas venir en Italie ou à Malte parce qu'ils pourraient... amener des personnes saines dans un environnement où elles pourraient tomber malades, un amalgame donc entre ça et entre les navires de sauvetage, où là par contre, c'est des personnes qui sont en situation de vulnérabilité extrême, et où on va de façon très hypocrite dire « ah ben non, on ne vous prend pas, on risquerait de vous contaminer, de vous rendre malade ».
Peut-être ce qu'il faut rappeler, c'est que cette notion de port sûr, elle apparaît dans le droit maritime, quand on procède à un secours, on a l'obligation de les amener dans le port sûr le plus proche du lieu de sauvetage. Et c'est le débat qui a lieu, enfin le débat, si on peut parler de débat, mais avec notamment la Libye, qui est considérée par certains pays comme un port sûr, qui voudrait que les sauvetages soient ramenés dans cette zone-là.
L'assistance aux personnes en mer est obligatoire, et le sauvetage est considéré comme terminé une fois que les personnes sont débarquées dans un port sûr. Un port sûr, c'est un endroit où leurs droits humains vont être respectés et où les personnes vont pouvoir faire une demande d'asile si jamais elles le souhaitent. Et en effet, étant donné que la Libye est un pays en guerre civile où on sait par Amnesty International, par l'ONU, par le Haut Conseil des réfugiés que les droits humains basiques ne sont pas respectés, que les personnes ne peuvent pas faire une demande d'asile et ne peuvent pas ensuite prétendre à être traitées dignement, la Libye ne peut pas être considérée comme un port sûr. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois les débarquements se font en Europe, généralement en Malte ou en Italie, mais ils pourraient aussi se faire en France ou en Espagne si la France ou l'Espagne l'acceptaient.
Donc concrètement, aujourd'hui, quand un bateau procède à un sauvetage, il se retrouve face à des refus de tous les pays de vouloir faire accoster les personnes secourues.
Bah concrètement, on a la situation avec deux bateaux en ce moment et c'est ce qui se passe avec le Altamari et le Alan Kurdi. Le Altamari est donc un bateau d'une autre ONG qui était censé juste faire un transit depuis Siracusa en Sicile jusqu'en Espagne. Donc ils sont partis avec un équipage réduit, pas d'équipage de sauvetage et pas de médecins. Et ils se sont retrouvés dans une zone où ils ont vu une embarcation en détresse. Ils ont appelé la zone dépendait de Malte, donc ils ont appelé les gardes-côtes maltais et face à l'absence de réponse, ou en tout cas la réponse très lente de Malte, ils se sont retrouvés à prendre les personnes à leur bord hier ou ce matin.
Et depuis, ils n'ont eu pas de réponse de personne sur où débarquer.
Il n'y a pas de vraie réponse.
D'un navire qui avait coulé en Méditerranée ces derniers jours. À un moment, Sea-Watch avait exprimé ses inquiétudes sur le sort des personnes qui se trouvaient à bord. Ensuite, Frontex avait fait un gros démenti et gros communiqué de presse pour tenter de rassurer tout le monde en disant que les personnes avaient bien été secourues par les gardes-côtes libyens et ne vous inquiétez pas, elles avaient été ramenées en Libye et que le canot qui a coulé était donc vide de tout occupant et laissé là par les gardes-côtes. Est-ce qu'on en sait un peu plus ?
Alors ça, c'est une histoire qui est assez complexe au total, tout simplement parce qu'il y a très peu de gens en mer en ce moment, de gens pour monitorer la situation. Donc la plupart des informations qu'on a proviennent soit de Frontex qui fait encore de la reconnaissance aérienne, soit de Alarm Phone, qui est une hotline d'urgence pour les personnes en mer. Et ensuite, c'est un peu un travail de fourmi, essayer de regrouper les informations, essayer de comprendre ce qui se passe, mais on est un peu aveugle en ce moment. Tout ce qu'on sait, c'est que le 10 avril, Frontex a repéré 4 canots avec des personnes à bord. Qu'entre-temps, le 12 avril, on a repéré 2 autres. Sauf que depuis le 10 avril, il n'y a aucun sauvetage qui a eu lieu sur la zone, que l'on sache, que ce soit de la Libye, d'Italie ou de Malte. Donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On sait qu'un de ces bateaux est arrivé par lui-même à Pozzallo, en Sicile. Peut-être un deuxième. Et ensuite, on ne sait pas ce qui s'est passé concrètement avec les autres. Donc peut-être qu'en effet, ils ont été récupérés et personne ne l'a su. Peut-être qu'ils ont coulé et que lors de son deuxième passage, l'avion de Frontex n'a pas repéré de corps. Parce que c'est ce qu'ils disent, qu'ils ont repéré un navire mais sans corps. Est-ce que c'était trop tard ?
De toute façon, que ce soit et du côté de Frontex et du côté des gardes-côtes libyens, c'est pas non plus des interlocuteurs qui jouent la carte de la transparence et de l'honnêteté à tout prix.
La certitude qu'on a, c'est que malgré la situation en Europe, il y a toujours une situation très grave en Libye. Il y a officiellement 21 cas de Covid qui ont été déclarés. Donc il y a eu fermeture des écoles, des lieux publics et des frontières. Mais malgré tout, il n'y a pas eu de cessez-le-feu qui a tenu le coup. Il y a toujours des bombardements à Tripoli. Le Haut Commissariat pour les réfugiés, il a dénommé depuis le début du conflit plus de 300 civils tués et 150 000 déplacés. Et d'après l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, depuis début avril, il y a eu au moins 6 départs de Libye, ce qui correspond à peu près 500 personnes. Et il n'y a absolument pas eu ce nombre de personnes qui ont été ou rescapées ou arrivées en Europe. Ils ont comptabilisé 800 départs en mars pour 170 arrivées. Donc les 630 personnes sont parties mais pas arrivées, ben, soit ont été ramenées en Libye, soit sont mortes en mer. Et comme on n'a pas de déploiement sur ce zone, on n'a aucun moyen de savoir ce qui s'est réellement passé. Donc depuis le début de l'épidémie en Europe, on s'inquiète énormément pour nous, et ce qui est vraiment normal pour nos proches, pour nos familles, pour nos pays, ce qui est complètement normal. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait toujours des personnes qui traversent la Méditerranée régulièrement et pas dans l'espoir d'un monde meilleur, et qui vont, et en même temps qui vont pas non plus être ralenties par cette épidémie, parce que c'est des personnes qui fuient quelque chose de pire, qui fuient une guerre civile, qui fuient de la torture, qui fuient des camps de rétention, et qui ne vont pas vers quelque chose, mais qui, voilà, qui vraiment fuient. Et ça, qu'il y ait une épidémie en Europe ou pas, ça changera pas. Et de la même façon qu'on parle énormément de solidarité en ce moment en France, de solidarité entre nous vis-à-vis de nos personnes âgées, vis-à-vis de nos soignants, vis-à-vis des personnes vulnérables, faut pas oublier aussi ces personnes-là qui ont besoin aussi de cette solidarité.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Alors que Macron, dans sa grande mansuétude, propose un moratoire, c'est-à-dire un délai, hein, pas une annulation de la dette africaine, le continent subit lui aussi le virus, et ce ne sont pas ses belles paroles qui suffiront à endiguer la situation. Surtout qu'il s'est un peu avancé. Le FMI a gelé la dette pour 76 pays, dont 40 africains, c'est-à-dire pas la totalité du continent, et encore une fois, ce n'est pas une annulation totale, ce que demandaient les dirigeants africains. Alors un petit retour sur la situation. D'après un article de RFI publié hier, le continent africain compte désormais 15 249 cas et 816 morts, dont la plupart sont apparus très vite au cours de la dernière semaine. Quant aux mesures de confinement, couvre-feu, état d'urgence, tout l'attirail a été sorti, sans toujours tenir compte des réalités des populations, donc c'est difficile à mettre en place dans les quartiers les plus densément peuplés et les plus pauvres. Évidemment, dans ces quartiers-là, la distanciation sociale relève de l'illusion, et rester chez soi équivaut plus ou moins à mourir de faim. Alors parmi ces mesures, le masque. Le port du masque est désormais obligatoire en Guinée. Après le tweet d'Alpha Condé, le président, qui annonce cette obligation sanctionnée d'une amende en cas de non-respect, les réponses ont fusé. Quand le masque coûte le prix d'un pain, mon choix est facile. Où trouver les masques? Alors mets ces masques à la disposition de la population. Etc, etc. Donc des réponses très pertinentes, qui sont un peu plus concrètes que des mesures en l'air. Au Tchad, revirement de situation. Après avoir évalué la situation socio-sanitaire et compte tenu de l'indisponibilité des masques en nombre insuffisant sur le marché, le gouvernement du Tchad décide la levée de mesures relatives au port obligatoire du masque. Alors pour s'assurer que les mesures de précaution soient bien suivies, évidemment il y a une répression policière forte qui n'a rien à envier à celle de la France. Le 13 avril, Le Monde rapportait les propos de Adebayo Olukoshi, un chercheur nigérian basé à Addis Abeba pour le compte de l'Institut pour la démocratie et l'assistance électorale, qui dit « On a constaté un usage excessif de la force par la police ou l'armée dans un certain nombre de pays, notamment en Afrique du Sud, au Sénégal, en République démocratique du Congo et au Nigeria. Plusieurs personnes ont été tuées, d'autres sévèrement battus lors de leur arrestation pour trouble à l'ordre public. Alors, en Ouganda, puisque le code pénal punit toujours les actes sexuels contre nature, 20 personnes ont été brutalement arrêtées dans un refuge LGBT pour non-respect de la distance sociale. Alors, une autre conséquence assez critique du coronavirus en Afrique, c'est l'expulsion en masse d'Éthiopiens depuis l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Alors, ces deux pays qui recensent plus de 10 000 cas à eux deux, qui ont commencé à expulser les émigrés éthiopiens se trouvant sur leur territoire, en dépit des risques de propagation du virus. Près de 3 000 d'entre eux ont été embarqués dans des avions pour Addis Abeba en 10 jours, donc ce qui suscite l'inquiétude de l'Éthiopie, qui recense pour l'instant 82 cas. Donc la plupart de ces expulsés, c'était des domestiques ou des ouvriers du bâtiment, employés pour des salaires dérisoires et souvent sans droit en Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis. Donc certains d'entre eux sont porteurs du virus, tous sont placés en quarantaine, mais le gouvernement éthiopien proteste contre cette décision qui rend difficile son effort pour contenir la pandémie. Évidemment, l'Arabie Saoudite affirme que c'est des rapatriements volontaires et qu'ils n'y sont pour rien. Dans les retours. Alors, un dernier point, les situations de crise font fleurir les fausses informations en Afrique autant qu'en France. Donc au Cameroun, la ministre de la Recherche et de l'Innovation, Madeleine Chunté, a invité la population à limiter la consommation de chauves-souris et de mangue pour endiguer la pandémie, avant de déclarer le 6 avril sur une chaîne nationale que le problème c'est nos habitudes, aujourd'hui les jeunes s'embrassent trop. Quand nous étions jeunes, on ne s'embrassait pas, on se saluait à distance. Maintenant, tout a changé. Les gens s'embrassent partout. Voilà pourquoi la maladie évolue trop. Par ailleurs, comme en France, où les annonces fantaisistes du professeur Raoult ont eu leur petit succès, au Bénin, au Sénégal ou au Mali, les annonces de remèdes miracles au virus émergent aussi sur les murs des capitales. Alors, en usant du recours fréquent aux médecines traditionnelles, des charlatans comptent bien faire leur beurre avec des recettes en tout genre. Il propose d'envoyer ça partout dans le monde, moyennant une somme mirobolante. Donc je vous conseille de lire l'article complet, daté du 11 avril, sur le sujet, qui est à lire sur le site du Monde.
C'est la fin de ce Canu Info. Merci de nous avoir écoutés et retrouvez tout de suite la manif au balcon.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
La plus rebelle des radios.